Sud Radio, il est minuit. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie Expert.
Aujourd'hui, on est dans le journalisme pur et dur sur l'enquête avec un complément d'enquête demain.
C'est pas très sympa pour Jordan Deluxe qu'on n'est pas dans le journaliste pur.
Non, mais c'est une. Là, on est sur de l'enquête. À qui profitent les milliards de l'apprentissage? C'est un document assez incroyable. Et puis, une nouvelle formule sur Arte.
Enfin, c'est une émission qui s'appelle Source, en fait.
Absolument. Hein.
Et là, ils ont été sur
TikTok. Et le business des passeurs de migrants, c'est réalisé par Manon Bachelot. Et c'est tout à fait saisissant, là aussi, une enquête sur la manière dont TikTok, en toute impunité, permet à des passeurs de recruter des migrants qui veulent traverser la Manche. On y reviendra tout à l'heure.
La forme est formidable.
Ouais, la forme est très, très réussie. On commence tout de suite avec le zapping.
Sud Radio Média, l'instant zapping.
Valérie, évidemment, ce début de zapping, c'est le procès qui a lieu en ce moment en appel des attentats de Nice. Ah non, il y a plus important que les attentats de Nice. J'ai un correspondant, les caravanes quittent le camp de Biscarrosse, Valérie.
Oui.
Tout de suite, on retrouve notre correspondant de BFM. C'est quand même beaucoup plus important.
Plusieurs dizaines de caravanes viennent de quitter cette aire d'accueil des gens du voyage qui se situe à quelques dizaines de mètres de l'endroit où l'on se trouve avec Valentin Rivolier. C'est vrai que depuis 10 minutes, eh bien, les choses se précipitent. Quasiment l'ensemble de ces gens du voyage quittent cette aire d'accueil. Alors, difficile de dire si ce départ, eh bien, il était prévu de longue date ou s'il est en lien avec donc le drame et l'hospitalisation de Kenji Girac. Mais ce que l'on peut vous dire, c'est qu'une dame de cette communauté vient nous annoncer qu'ils allaient rejoindre Bordeaux sans plus donner de précision.
Merci donc de nous avoir donné aucune précision. C'est très gentil d'avoir fait un duplex pour nous donner aucune précision sur ces caravanes donc qui viennent de partir. Non mais entre nous, Valérie.
Mais j'ai allumé la télévision hier après-midi. J'ai vu un journaliste tout seul au milieu d'un champ vide. J'ai dit les caravanes sont parties. Voilà. C'est du grand reportage.
C'est le nouveau journalisme. Voilà. On va continuer à faire comme tout le monde, hein, Valérie, dans ce zapping. On va oublier l'actualité. On va continuer avec l'affaire. Faire évidemment concernant notre ami chanteur. Alors hier, n'en touche pas à mon poste, il recevait un membre des Gypsy Kings qui soutenait la thèse de l'accident. Mais il y avait Michel Marie. Alors lui, il était assez cash, il n'était pas d'accord.
On ne peut pas cacher quelque chose si on fait du mal.
Monsieur, comment vous m'expliquez que le coup de feu soit à 2h40 et qu'on prévienne les secours à 5h30. Mais c'est quoi votre explication?
Qui c'est qui dit 2h40 et à 5h?
C'est le procureur de la République.
Alors,
cette démarche. Marquez, j'en sais rien, c'est possible, hein, tout est possible.
Par qui, 3h après, vous croyez que quelqu'un va prendre la SAMU pour 3h après? Moi, je trouve que c'est pas possible.
Ah, c'est comme ça que ça s'est passé.
Ah ouais, pardon.
Et l'arme a disparu? Si le tir se passe à l'intérieur de la caravane, le corps est à l'extérieur de la caravane quand les secours arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué?
Alors, on a Camille le Pomelec qui vous êtes grand reporter,
bonjour,
vous êtes à complément
d'enquête.
Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop dans les médias et que lorsqu'on ouvre le journal avec ce fait, enfin pas le journal de France 2, hein, mais lorsque les journaux sont ouverts sur ce fait divers, vous en pensez quoi?
Je sais pas. Franchement, je saurais pas quoi vous dire si on en parle trop ou on en parle pas assez. Voilà.
Ouais,
pour tout vous dire, en fait, je suis un peu en retard. Et
ouais.
J'ai posé mon vélib devant le tour. Là. Donc,
et après, on parlera du complément d'enquête. Okay. Je pense que vous serez plus volubile. Valérie, on a la date.
Merci
le 23 juin ou la semaine suivante. Ou la semaine d'après, vous savez de quoi je parle.
Le bain dans la Seine.
D'Anne Hidalgo, alors on la verra peut-être faire des longueurs, mais aussi notre ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra. Toutes les deux, elles étaient très heureuses à l'idée de se dire « oui, on va se baigner ».
C'est un des rendez-vous du siècle, cette baignabilité de la Seine et de la Marne. La Seine n'est plus baignable depuis 1923, la Marne ne l'est plus depuis 1970. Et demain, elles vont le redevenir.
Il y aura le grand plongeon dans la Seine, qui sera autour du 23 juin ou la semaine suivante et qui nous permettra de venir goûter l'eau de la Seine. Beaucoup de volontaires se sont déjà manifestés pour venir plonger avec moi.
Et oui.
Et vous allez aller plonger avec elle ?
Je ne pense pas, non. Elle a dit qu'elle sera un peu fraîche, mais propre. Voilà.
Bah, oui. Ah. Vous savez en partie pourquoi elle est sale ? J'ai un ami qui travaille sur, au fleuve de France qui m'expliquait que tous les bateaux qui stationnent et qui vont être enlevés hein, pour les Jeux Olympiques, en fait, n'ont pas le tout à l'égout.
Ah bon ?
Et donc, lorsqu'ils vont aux toilettes ou autres, eh ben, ça va directement dans la Seine. Et c'est une grande partie de la pollution vient du fait que tous les bateaux et tout ce qui stationne, il n'y a pas de tout à l'égout.
Ah oui ?
C'est la faute de votre copine, Christine, bravo. C'était le grand retour de Secret Story à 23h30, vous avez regardé ?
Pas du tout.
C'était jusqu'à 2h du matin, vous auriez plus, 2h15. Non, ça a plutôt moyennement marché, mais ça va. Je pense que le replay va équilibrer. Et ils ont fait pas mal d'audience sur les jeunes et les ménagères. Ils ont fait à peu près 800 000 téléspectateurs.
Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font à 23h30 devant la télé ?
Oh, bah vous aussi, vous allez faire un couvre-feu télé ?
Oui.
Alors, c'était plutôt TikTok Story. Hein. Que des gens de chez TikTok qui se connaissent. Alors, c'était un peu bizarre. Mais aussi, on a découvert une nouvelle voix qui était une voix féminine. Mais quelques heures avant, dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi et Guillaume Janton avaient des informations de pourquoi ils ont changé la voix.
Voilà. Oui. J'ai une question sur la voix, parce que Benjamin a l'air d'avoir des infos.
Parce qu'ils n'ont pas de deuil.
Pourquoi TF1 a fait toute la com avec la voix? Ils ont fait des annonces
dans le truc. À mon avis, là, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'ils ont dû commencer à faire les bandes promotionnelles, les appels à casting avec la voix, sans négocier le contrat, et qu'après, ils ont dû parler d'oseille, et que là, ça a dû coincer.
Bah, mais c'est pas TF1, c'est la boîte de prod.
Ouais. Ouais, enfin, c'est TF1 qui paye le programme. Donc, c'est TF1. Quand TF1 dit, quoi qu'il arrive, je veux la voix, normalement, le producteur ferme sa gueule.
Mais n'importe quoi. Mais si à un moment, le mec, il a un budget. Donc forcément, il a dû vendre ça, je ne sais pas combien. Mais bon, il y aura des pigeons pour nous
connaissant
acheter
la marge, connaissant la marge, il pouvait diminuer un petit peu la marge. Quoi.
Vous avez vu cette fine analyse hein, de Guillaume Janton et de Benjamin Castaldi.
Qui avait fait un tweet très long, Benjamin Castaldi, pour expliquer que c'était une, en gros...
Et puis que c'était dommage la fin de cette voix. Et que finalement, il n'aurait pas eu assez d'argent. Patatras. Hier, ils ont expliqué que la voix restait. Et que c'était en fait... un des secrets qui était le départ de la voix et que la voix reste.
Vous me passionnez, Gilles.
Ils sont pas... Mais non, parce qu'ils sont tombés dans le panneau. Ils ont fait une heure de débat hier dans Touche pas à mon poste, alors qu'ils n'avaient pas d'infos et qu'ils sont tombés dans le panneau. Alors, c'est une information que je vous donne. Là, j'ai encore plus vous passionner, Valérie. Alors, lundi, je vous ai fait la version cartoon des chansons à la gloire de Kim Jong-un. Hier, c'était la version salsa pour soutenir Trump. Alors ça, c'est des chansons officielles hein, du parti de Kim Jong-un et du parti de Donald Trump qui passent à la télévision. Mais je vous ai aussi aujourd'hui préparé un autre de ces soutiens sur les réseaux sociaux. Ce sont les Blacks qui se mobilisent pour Donald Trump sur les réseaux. Là, on n'est pas dans la salsa, on est dans le rap.
Black
écoutez.
For Donald
Black
Trump.
Black for Donald Trump.
Black Maga, Black Maga, Black Maga, Black Maga, Black Maga, Black Maga. Donald Trump, yeah, that's my president. Donald Trump, the first black president. Ever seen a black patriot? Yeah, we exist. The Democrats use my color just to stay rich. Indict my president, you might as well indict me too. Call me your Uncle Tom, but really what Obama do?
Il y a plein de chansons comme c'est assez
étonnant. Hein. Et là, c'était les Blacks. Demain, je vous ferai partie, je vous montrerai notre nouvel habillage.
Ah bon, très bien, je suis ravie de l'apprendre. On se retrouve dans un instant avec Camille Le Pomélec pour un complément d'enquête demain soir à 23h sur France 2.
Ah,
à qui profitent les milliards de l'apprentissage? Une grande, grande enquête qui révèle la gabegie et les arnaques dont certains...
On voit que notre ministre de l'économie veut faire des économies.
À tout de suite.
Sud Radio Pau.
102.
Sud Radio.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind. How many times? Did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones.
pain like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down.
Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Camille Le Pomélec. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur à Complément d'enquête, pour l'émission Complément d'enquête, demain, jeudi 25 avril à 23h. À qui profitent les milliards de l'apprentissage? On est resté scotché par votre enquête parce que on découvre en fait les dessous de cette, de ce qu'est l'apprentissage, les dessous et ce que ça coûte à l'État et la façon dont les entreprises, entre autres, en profitent. Alors, c'est une enquête que vous avez réalisée. On va les citer avec Clément Fabre, Bruno Maruani et Jeanne Bureau pour la société de production Ikari. Quand vous démarrez une enquête comme celle-là, vous savez à quoi vous allez. On ne sait jamais à quoi on va s'attendre, mais vous avez trouvé que cette enquête était particulièrement pleine de rebondissements et de découvertes.
Oui, bah ouais, ça fait presque 20 ans que je fais ce métier, ouais. Et souvent de l'investigation. Et là, il a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà de compréhension de tous les différents sigles de ce magma, parce que à la fois on parle de formation professionnelle, donc c'est le ministère du Travail, et puis c'est aussi de l'éducation. Donc il fallait, j'ai des enfants qui sont au collège, donc ça ouais. m'intéressait aussi de savoir où ils vont, un peu les boîtes à formation. Et il a vraiment fallu plusieurs semaines, plusieurs mois pour rentrer dans tous les rapports qui ont pu être écrits sur le sujet,
oui, comprendre les budgets, etc. C'est d'une grande complexité. Déjà, rappelez ce que recouvre l'apprentissage. De quoi on parle quand on parle d'apprentissage? Ça s'adresse à qui et comment ça fonctionne?
L'apprentissage, on a tous, je crois, un peu l'image ouais. d'Épinal, des métiers ouais. manuels, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu décrocheur scolaire, on va dire à 14, 15 ans, l'école, c'est pas fait pour lui. Et là, on lui dit, écoute, tu vas apprendre avec un tuteur et en plus, tu vas être payé un peu moins qu'un salarié normal. Mais voilà, tu vas apprendre en travaillant. Ça, c'est le principe. Et c'est vrai que ça marche bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a un consensus politique depuis des années. Et c'est vrai que depuis des années, ça décolle pas. Alors qu'en Allemagne, il y en avait deux fois plus. Donc Macron, quand il arrive en 2018, il dit, moi, je vais révolutionner l'apprentissage. On va vraiment faire exploser
le truc.
Et aujourd'hui, ouais. ça s'appelle l'alternance. Ouais. Mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, là, c'est plus des étudiants du supérieur. Et c'est, on travaille et on étudie en même temps. Souvent, c'est deux jours par semaine. Ça peut être une semaine par mois.
Alors, qui en profite de l'apprentissage? Financièrement, c'est ce qu'on découvre dans le reportage, c'est que c'est assez incroyable ce que ça coûte à l'État et ce que ça rapporte finalement à un certain nombre de personnes que vous avez bien identifiées dans le reportage.
Absolument, oui. 22 milliards, ça paraît... déjà, on a du mal à savoir ce que ça veut dire, 22 milliards, je trouve, mais en fait, ce qu'il faut comparer, c'est un économiste qui m'a aidé là-dessus, Bruno Coquet, qui est interrogé dans le reportage. Donc la Cour des comptes, elle parle de 17 milliards, lui dit 22 milliards, parce que en plus des subventions aux employeurs, en plus des formations payées, il y a toutes les exonérations de charges, il y a tous les impôts sur le revenu qui ne payent pas, il y a toutes les aides des régions, donc bref, ça fait 22 milliards, et 22 milliards, c'est plus que ce que l'État, ce que nous on donne par exemple à l'enseignement supérieur, c'est plus que ce qu'on donne aux facs. L'université, c'est 17 milliards. Donc lui, il dit, imaginons ce qu'on ferait si on doublait ce budget. Ça donne un peu une idée
Le budget des universités est moindre que le budget de l'apprentissage. Ouais, c'est totalement fou. Et ce qui est totalement fou dans votre reportage, on a eu la chance de voir en avant, c'est que vous expliquez bien qu'en fait, nous, contribuables, on va à la fois payer des gens pour qu'ils aillent en apprentissage. En moyenne, c'est entre 11 000 et 14 000 par candidat quand on est dans des écoles supérieures. Et qu'ensuite, quand ils vont être embauchés, il va avoir une réduction pour l'employeur et qu'il ne va pas payer d'impôts et autres. Et donc, il va avoir un salarié, au lieu de payer 2500 euros, il va payer 1100 ou quelque chose. C'est à peu près ce que vous dites dans le sujet. Et ça aussi, c'est le contribuable qui paye. Ça veut dire qu'à chaque fois, nous, on passe à la caisse, en fait.
Ouais, c'est ça. Plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est assez fou. Bah, en fait, c'est aussi. Donc, il y a une première chose, c'est ces formations qui sont payées. Donc là, sans plafond. Avant, il y avait un plafond. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est effectivement de donner aux entreprises. Avant, c'était 8 000 euros pour un majeur, 5 000 euros pour un mineur. Et maintenant, depuis janvier 2023, c'est 6 000 euros. Voilà, c'est 6 000 euros la première année pour chaque jeune employé en apprentissage. Donc, c'est beaucoup d'argent.
Et pour se rendre compte, Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce.
Pour la première fois, la France compte plus d'un million d'alternants, des étudiants qui apprennent leur métier en travaillant. Alors que le déficit se creuse, complément d'enquête sur la réforme de l'apprentissage qui coûte plus de 20 milliards d'euros d'argent public par an.
Transparence de la cave au grenier.
La question, c'est pas de savoir si l'apprentissage, c'est bien ou c'est mal. La vraie question, c'est à qui profite cet argent.
Cette exception française est-elle la solution pour intégrer les jeunes et lutter contre le chômage?
Il vaut mieux prendre deux alternants qu'un CDI, clairement. C'est pour le même salaire, vous avez deux personnes.
Formation en toc, boulot bidon, ce dispositif très généreux est-il dévoyé?
Complément d'enquête présenté par Tristan Walex, c'est demain soir, juste après Envoyé spécial, sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Alors vous êtes infiltré dans une école supérieure, et là vous apercevez que non seulement ils perçoivent de l'argent, mais en fait il n'y a même pas de cours de dispensés. Comment ça s'appelle les cours
autonome,
c'est ça.
Ah oui, alors ça c'est pas l'infiltration, ça c'est Clément Fabre hein, qui travaille avec moi, qui a l'âge hein, de s'infiltrer. Moi je suis un peu plus âgé et je suis un peu plus blanc. Et non, alors là c'est trois jeunes femmes qui ont travaillé pour qui étaient scolarisées dans une des écoles du groupe Galileo, qui est le leader mondial. C'est assez méconnu comme groupe, leader mondial de l'enseignement supérieur, et qui a notamment des écoles de commerce. Donc c'est une de ces écoles à Paris. Et en fait elles arrivent, c'est un MBA, Master of Business, production audiovisuelle, plutôt bien réputé, plutôt bien classé, qui coûte assez cher d'ailleurs. Bon, là, c'est payé par l'apprentissage. Elles se débrouillent par elles-mêmes pour trouver une entreprise, des bonnes entreprises. Elles ont des parents qui ont un réseau, hein, ça compte là. Bon, elles arrivent, premier jour de la rentrée, et bon, il y a une réunion, déjeuner, elles viennent de déjeuner, et là, elles voient sur leur emploi du temps cours en autonomie.
C'est ça.
Ah, donc, c'est une heure super. Et demie, c'est la perme, quoi. Une heure et demie en classe. Et voilà, elles ont 22, 23 ans. C'est des filles qui ont déjà beaucoup travaillé, donc elles ne comprennent pas. Et ces cours en autonomie, elles vont les retrouver, parce qu'en fait, les cours, c'est le vendredi et le samedi. Elles travaillent du lundi au jeudi. Donc, venir un samedi quand on a 23 ans en cours, c'est quand même pas déjà compliqué. Et si on vous met que c'est un cours en autonomie, alors là, c'est.
Y a des formations bidons, c'est ça aussi, hein, l'apprentissage et cette alternance proposée par l'État. Et il n'y a pas vraiment de ménage qui est fait, on laisse faire en fait.
Il y a un peu de ça. Il y a un peu l'idée de faire du quantitatif. Il y a un peu l'idée qui était, c'est aussi un marqueur hein, pour le président Macron, parce que ce qui est intéressant pour des politiques, c'est de dire, ben voilà, le million. Hein, ça, c'est la campagne de 2022. Ouais. Bon, bah,
un million de jeunes en apprentissage.
Un million, ça, c'est des chiffres. On peut présenter ça aux Français.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça profite vraiment aux jeunes? On peut pas lui reprocher de vouloir développer l'apprentissage. Non. Sauf que c'est pas suivi derrière. Encore une fois, c'est de la com.
Voilà, c'est les deux écueils.
Et qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme celle-là, on pense à la taxe carbone, on pense à un certain nombre. On voit ce qui se passe en ce moment avec le photovoltaïque aussi, enfin avec les panneaux. Il y a toujours des gens qui s'engouffrent dans ces aides qui sont proposées pour détourner l'argent. Et visiblement, il n'y a pas assez de contrôle.
Voilà, il n'y a pas assez de contrôle. À la fois pédagogique hein, sur la qualité des formations et à la fois effectivement sur la réalité de ces formations.
Oui. Ouais. Moi, je veux juste revenir sur une chose. Pourquoi vous avez dit un peu plus blanc, ça m'a
choqué. Non, cheveux blancs.
Ah, cheveux blancs.
Moi, j'ai des cheveux blancs.
Ah, oui. Des cheveux oui. blancs.
Donc, pour m'infiltrer dans une école,
c'est un peu plus compliqué.
Avant 21 ans, c'est plus compliqué. Oui, parce que effectivement, moi aussi, j'ai tilté.
Ouais, vraiment,
j'ai compris que vous disiez
et les cheveux. Pour nos auditeurs.
Et les cheveux.
Ah oui, oulala.
Ça peut partir vite à notre époque.
Oui, oui, lapsus, là.
Moi aussi, j'ai entendu, ça m'a aussi interpellé. Puis j'ai compris.
Ouais, c'est bien.
Un peu cheveux blancs.
Ouais, qu'on le dise et qu'on le désamorce.
Voilà. Ouais.
Ça évite une polémique.
Les étudiants, eux, sont certains s'en tirent quand même. Enfin, c'est profitable. On peut voir le bon côté des choses.
Ouais, bien sûr. Non, mais l'apprentissage, mais là, ouais. c'est bien. C'est de manière générale, c'est très très bien. Les études économiques le disent. C'est un accélérateur de carrière.
Ça marche
surtout
en Allemagne
pour des
dites.
Enfants. Oui, mais alors c'est surtout la différence. Je veux dire, le delta important, c'est surtout pour les enfants qui pour les jeunes avant le bac et sur les métiers manuels. C'est là où on voit qu'il y a un vrai changement de carrière. C'est là où on voit que, entre guillemets, c'est remis dans le droit chemin. C'est un peu l'image d'Épinal.
Mais dans les MBA et le marketing, ça ne sert pas à grand-chose.
Ça va permettre d'avoir un CDI plus vite et un meilleur salaire. Mais est-ce que ça vaut...
Vous montez des tableaux où finalement, ça ne se concrétise pas vraiment, les CDI. On voit que les tableaux sont modifiés par l'école pour toujours avoir une nouvelle subvention.
Ça arrive, et ce n'est pas très contrôlé. Et ça arrive notamment sur les formations un peu de niche. Là, c'est, on va dire, le management du sport. C'est quelque chose qui est très à la mode. Donc, effectivement, ça va attirer pas mal de jeunes qui aiment bien le foot, le sport et tout type de sport, qui vont se dire, tiens, c'est ma passion, pourquoi pas en faire mon métier. École de commerce, ça rassure les parents, ça rassure tout le monde, sauf que de trouver des postes de cadre dans des métiers, dans des clubs un peu prestigieux, il n'y en a pas pour tout le monde forcément. Donc eux vont mettre en avant une espèce de statistique en disant, notamment pour les parents, 90% ont un boulot. Certes, ils ont un boulot, mais quel boulot ? Et quand on regarde dans le détail ce qu'ils sont obligés de déclarer à l'État, et c'est ça qui justifie tout cet argent public, c'est quelle est la qualité de ces jobs. Donc, c'est-à-dire, on est quand même sur du bac plus 5, donc on est censé être des métiers de, on va dire, cadre, peut-être pas tout de suite, mais dans les 2-3 ans. Dans ce secteur-là, il y en a... On avait un sur deux, là.
Et alors après, vous vous attaquez en troisième partie. Alors ça aussi, c'est formidable. Hein. C'est Carrefour. Carrefour qui a sa fameuse école Carrefour, mais sans locaux, sans professeurs. Et en fait, l'école, c'est dans le Carrefour. Donc, mais c'est vrai, en plus, c'est dans le Carrefour. Et en fait, ils mettent plus les chips dans les rayons que potassés. Et là aussi, Alexandre Bompard a mis en place un système dans lequel il touche de l'apprentissage et les apprentis, là aussi, il y a de l'argent public qui part parce qu'il y a des réductions d'impôts et qu'ils sont, en fait, ils font un travail, ça empêche des gens de travailler.
C'est ce que disent les syndicats. Donc là, le Carrefour a double casquette, c'est-à-dire en tant qu'employeur, il va toucher 6 000 euros par jeune, en tant que formateur, il va toucher 5 400 euros.
Alors qu'ils sont payés au SMIC, c'est le SMIC.
En dessous, parce qu'ils ont des salaires moindres en tant que c'est des grilles moindres. Donc, ils seront, par exemple, à moins de 20 ans, ils seront à 950 euros par mois. C'est jeune.
Et ça, c'est nous qui payons.
Il y en a certains, ils arrivent à 5 heures du matin, il n'y a pas de transport en commun s'ils n'ont pas de bagnole.
Mais comment on justifie cet argent, en fait, est-ce qu'on a besoin de subventionner à ce point-là?
Il y a pas mal de gens qui disent que non. Tout cas, sur les aides aux employeurs, les aides pour les grandes entreprises, il y en a beaucoup, y compris Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail,
qui participe.
Non, mais il y a au château, à l'Élysée, aujourd'hui, il y a une espèce de raidissement. Il y a quelque chose de cet ordre de ne pas donner ce signal aux entreprises de baisser les aides. Parce qu'il faut atteindre ce million-là. Voilà, c'est une des réformes Macron qui a marché, donc il ne faut pas...
On ne peut pas dire on doit trouver 3 milliards et à côté dépenser 20 milliards de notre poche sur du faux emploi, en fait, sur quelque chose qui n'existe pas. On est d'accord que les formations chez Carrefour n'existent pas. En fait, ils utilisent ça pour avoir des employés à bas coût.
La main-d'œuvre.
Bon, ça c'est les... Moi je vais pas commenter, je suis journaliste, donc c'est ce que disent en tout cas les syndicats.
C'est ce que vous avez constaté.
Les syndicats disent depuis, il y a un plan, Carrefour perd de l'argent, ces hypermarchés, donc il y a une réalité économique, il va dire Il va comparer par rapport au Auchan, par rapport aux concurrents, Lidl, etc. Il va dire, voilà, moi, quand je regarde mes supermarchés, mes hypermarchés, les salariés me coûtent plus cher qu'avant, que ailleurs. Et les syndicats disent, oui, effectivement, avant, il y avait le quart d'heure social chez Carrefour. On se glorifiait du fait que chez nous, on était un peu mieux payé, c'était sur 13 mois, etc., etc. Donc, il y a tout un plan de réduction des coûts, assez dur,
pour regarder la concurrence,
qui entre guillemets, permet aussi de dégager du cash pour acheter des actions. Donc ça, c'est un truc et donner un bon salaire à Monsieur Bompard. Donc voilà, ça, c'est des trucs... Ça, c'est les syndicats. Mais eux, ils disent, en tout cas, il y a les emplois qui baissent, des départs en retraite, et ils sont remplacés par ces jeunes qui sont mal payés, précaires, et qui, derrière, alors que c'est la promesse, ne sont pas embauchés en CDI.
Ouais.
8%, c'est quand même très peu, quoi.
Ce matin,
8%. À la limite, on peut dire, les jeunes, ils apprennent à bosser, ils sont en rayonnage, il y a
des
chiffres.
Mais après, il faut que ça débouche sur quelque chose, c'est ça la question. Ce matin, dans les Échos, une tribune, apprentissage, ne transformons pas une voie royale en voie de garage, puisqu'ils ont été annoncés, enfin en tout cas dans les projets, une coupe budgétaire de 200 millions supplémentaires, une coupe de 200 millions sur ces contrats d'apprentissage. Donc il y a quand même une prise de conscience au sein du gouvernement.
Il y a même un groupe de députés de la majorité en septembre dernier, en lien plus ou moins avec Bruno Le Maire, qui ont tenté de réduire ces aides aux employeurs, notamment pour les grandes entreprises, pour justement les formations les plus hautes. Et l'Élysée a dit non, c'est... Voilà.
Oui, bon. C'est effectivement. Et sur le plateau, il y aura qui avec Tristan Ouellec dans les fauteuils rouges.
Alors, je ne sais pas si je peux vous l'annoncer. Est-ce que j'ai le droit? Je ne sais pas.
Oui, je vais le dire.
Oui, oui.
D'accord.
Parce que vous nous l'avez dit avant.
D'accord.
Non, mais vous pouvez le dire, non?
Ouais. Bon, c'est l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
D'accord.
Qui est quand même accusée de collusion dans votre reportage. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'elle va dire.
Le mot est un peu fort, mais on va dire qu'elle est embauchée, enfin, elle est au conseil d'administration de Galiléo, qui est un des grands groupes
En tout cas, c'est vraiment passionnant, c'est intéressant, pourquoi 20 milliards d'euros pour l'apprentissage, comment c'est utilisé, comment certains en profitent. Il y a des étudiants qui sont interrogés, vous avez des formateurs, vous avez énormément de témoignages. C'est vraiment un document important, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, dans complément d'enquête. Camille Le Pomelec, merci d'avoir été avec nous.
Jeudi, c'est demain.
Oui, c'est demain à 23h, complément d'enquête et puis le replay, évidemment. Tout de suite, alors, on va parler de tout autre chose, mais néanmoins, c'est de l'enquête avec TikTok qui laisse finalement des recruteurs.
Migrants,
c'est ça, les recruteurs pour les migrants pour pouvoir traverser. Bon, ma phrase, elle est alambiquée, mais en gros, TikTok laisse des recruteurs. Pour passer des annonces pour offrir leurs services aux migrants qui veulent traverser la Manche.
Je suis arrivé.
Allez, à tout de suite.
Sud Radio Tarascon.
95.2.
Sud Radio.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse. Comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je, sans la voix, cherché, parler devant, parlant de moi? Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses. Par la vie qui tabasse, se sut fondre la glace, trouver une voie dans les congères jusqu'au cœur de mes congénères avant que je tombe en disgrâce. Aurais-je effleurer cette grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifférent.
Sud Radio, le supplément média.
Le supplément média, aujourd'hui avec Manon Bachelot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et on a adoré votre reportage. Enfin, adoré, le mot est peut-être pas très bien choisi, mais en tout cas, on a été là aussi scotchés. On voit qu'il y a des journalistes qui font des enquêtes. On l'a vu avec Complément d'enquête. Oui. Et donc, c'était une émission source sur Arte qui existe, pardon.
Vous avez du mal ce matin.
Oui, j'ai un peu de mal. Je sais pourquoi. Source.
Encore bu,
non, je n'ai pas bu, je bois du thé. TikTok est le business des passeurs de migrants. Donc, vous avez réalisé ce document dans le cadre de cette émission Source, qui est tout à fait novatrice dans sa présentation. Ça dure un quart d'heure. C'est accessible sur la plateforme d'Arte, sur YouTube. Et on est avec vous dans cette enquête. On vous suit de clic en clic sur cette enquête en particulier, extrêmement forte, qui raconte comment TikTok laisse des passeurs recruter, faire du recrutement pour des migrants qui veulent traverser la Manche.
Absolument. Alors, en fait, ouais, l'idée de cette émission, c'était d'emmener les citoyens avec nous. Et c'est-à-dire qu'on raconte notre méthode d'enquête du point A au point
B, au point final, ce que vous voulez montrer. Ouais.
En fait, l'idée de base de création de l'émission, c'était de combattre en fait la défiance envers les journalistes et de montrer que on peut faire du journalisme en racontant nos sources, en racontant nos moyens de vérifier l'information, et que ça peut être aussi un peu excitant. Oui, en fait, on raconte l'histoire un peu comme un jeu de piste à travers des outils numériques, finalement qu'on trouve sur Internet et qui sont accessibles à tous, qui sont des outils publics maintenant. Ouais. Et là, ce qui est intéressant en plus dans cette enquête sur TikTok et les passeurs, c'est que j'ai travaillé uniquement en source ouverte.
Ouais.
C'est-à-dire que toutes mes informations sont en ligne sur Internet. Après, encore faut-il savoir où trouver, comment chercher, etc., comment vérifier l'information. Là, on fait un travail vraiment de journaliste.
Ouais.
Mais effectivement, toutes les informations sont accessibles.
Ça part d'un passeur qui sur TikTok qui propose ses services pour faire des traversées. Donc, vous cliquez et vous le contactez pour traverser la Manche.
Absolument. Et là, je me rends compte que il va me proposer une traversée quasiment 3 jours après l'avoir contacté. Donc ça confirme le fait qu'il est vraiment un passeur et pas un menteur qui s'afficherait comme un passeur, même si je vois pas bien l'intérêt de mentir sur ce genre de sujet. Et ensuite, il m'explique donc l'organisation de la traversée, que quelqu'un m'attend dans un camp de la jungle à côté de Dunkerque, qu'il faut qu'on se retrouve.
Vous repérez aussi sur la photo de son profil TikTok un bâtiment que vous identifiez en ayant fait des recherches comme étant un bâtiment à Dunkerque. Donc vous comprenez que c'est par là que ça va se passer.
Absolument, parce qu'en fait, la première fois que j'arrive sur son profil, c'est un profil anonyme avec des propositions de passage. Et il s'affiche comme passeur, mais à aucun moment on peut deviner son identité, si ce n'est qu'on reconnaît son visage sur plusieurs photos.
Et à noter qu'il n'est pas le seul. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur TikTok, vous avez un nombre de propositions et de profils qui vous proposent de traverser la Manche. Il y en a même une quinzaine ou une vingtaine. Et c'est là aussi où c'est intéressant en début. C'est-à-dire que vous montrez que TikTok est une plateforme pour laquelle tout le monde peut se connecter quand vous êtes migrant pour traverser.
Ouais. En fait, c'est devenu une plateforme publicitaire pour les passeurs, pour faire de la promotion de traversée. Alors, il y a beaucoup de propositions. Donc c'est qui va avoir la proposition la plus alléchante, traverser en seulement 3 heures alors qu'on sait pertinemment que ça prend au moins 8 heures.
Incroyable.
Proposition pour les familles, les enfants, alors que c'est des traversées extrêmement périlleuses. À aucun moment on s'est signalé évidemment sur genre de proposition.
On rappelle qu'il y a eu 5 morts, dont une petite fille la nuit précédente.
Absolument.
Donc c'est très dangereux. On leur dit, on vous dit, c'est pas dangereux d'ailleurs. Hein, il vous dit ça, le passeur. C'est ça qui est incroyable.
Oui, parce que je lui dis que j'ai peur et donc que je n'y viendrai pas. Bon, de toute façon, je ne comptais pas traverser. Mais il me dit là, il n'y a pas de danger.
Et il vous demande pas de payer avant ? Ça, c'est un point qui n'est pas explicité vraiment.
Non, parce qu'il demande de payer une fois qu'on est sur place.
D'accord.
Et c'est en liquide, j'imagine.
J'imagine, mais je ne suis pas allée jusque-là dans l'enquête. Ouais. Et j'imagine que c'est
parce que vous êtes restée, pardon, sur un internet. Vous vous rendez compte aussi que le prix n'est pas le même selon qu'on est afghan ou albanais.
Ah oui, j'allais aller là-dessus, c'est incroyable.
Absolument, parce que je me suis fait passer pour un migrant albanais. Là, je me suis rendu compte qu'on me proposait des tarifs beaucoup plus chers. Que quand on se fait passer pour un migrant afghan.
Mais là, c'est aux alentours de 2000, entre 1800 et 2500 euros.
C'est ça, exactement.
Pour le passage. Après, vous enquêtez, vous cliquez, on clique avec vous sur le profil de ce passeur. Donc, il a un profil Facebook. Vous voyez qu'il a pas mal d'argent, qu'il vit bien, qu'il est...
Qu'il a une notoriété.
Et qu'il est, il est kurde, c'est ça ?
Il est kurde irakien.
Ouais, c'est ça. Et voilà, tout vous ramène à son village.
Exactement. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que dans plusieurs de ses vidéos, il parlait d'une ville qui s'appelle Kalar, qui est située donc au Kurdistan irakien, à la frontière avec l'Iran. Et donc, en retrouvant sa photo, j'ai pu retrouver son profil Facebook. Et donc là, effectivement, il se lâchait beaucoup plus, entre guillemets, parce qu'il avait laissé son profil ouvert, ce qui est un peu étonnant. Mais là, on voit qu'effectivement, il a des belles voitures, qu'il a investi dans un club local, qu'il a financé les équipements sportifs de l'équipe.
Il y a un auditeur qui demande, c'est pas illégal de promouvoir une chose illégale ou un crime en cours. Enfin, je sais pas s'il s'adresse à vous ou à TikTok. C'est-à-dire que la question, moi, j'ai envie de poser, que fait TikTok? Vous avez essayé des conseils?
Et après, moi, je peux relayer l'auditeur où je trouve qu'il a raison. Et c'est le côté poil à gratter de ma question. C'est le petit manuel de comment traverser la Manche si vous êtes migrant, quand même.
En fait,
ce que vous avez fait indirectement.
Oui et non, parce qu'en fait, on ne donne à aucun moment les mots-clés exacts qu'il faut taper dans les barres de recherche pour essayer de pouvoir passer. Après, tous les migrants connaissent les mots-clés qu'il faut taper pour trouver. En fait, c'est très facile de trouver les numéros de téléphone. Les passeurs eux-mêmes mettent leur numéro de téléphone sur TikTok pour qu'on puisse les contacter pour pouvoir passer.
Mais ça veut dire que la police aussi.
Mais TikTok... Et contre, dans leurs règles, leurs propres règles communautaires, il est interdit de faire la promotion du trafic d'êtres humains.
Ouais. Absolument.
C'est en ça qu'on les a questionnés, parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de comptes. Là, on s'attache à un compte en particulier, parce que lui dit lui-même qu'il est passeur, et donc on s'attachait à une histoire et un portrait. Mais il y a des dizaines et des centaines de comptes comme ça, qui sont tous les jours mis à jour. Alors, TikTok fait un travail de modération, mais qui n'est pas suffisant, puisque on s'aperçoit que les comptes sont supprimés dans la journée et puis en fait ils sont de nouveau mis en ligne.
Sûr,
nous on s'est aperçu qu'il y avait des comptes qui étaient en ligne depuis au moins un an. Donc ça pose vraiment des questions sur la responsabilité de la plateforme.
Bien sûr. Et là on vous répond.
Mais on nous répond qu'ils font un travail de nettoyage et de modération.
Mais en fait non. La réalité c'est que non. Vous le contactez ensuite ce passeur en tant que journaliste et là patatras.
C'est ça. Ouais. Là, patatras, il nie tout à coup qu'il n'est plus du tout passeur. Alors, quelques messages plus haut, il me proposait de passer, de traverser la Manche.
Mais pourquoi la police ne fait pas la même chose ?
Mais j'imagine qu'ils font la même chose. On a essayé de les contacter, mais on a eu des réponses assez lacunaires à notre demande d'interview. Je pense aussi que c'est peut-être compliqué de travailler avec les plateformes parce que, en fait, les passeurs se cachent derrière des pseudos, derrière des faux profils. Ouais. C'est très compliqué de remonter à l'identité du passeur. Ils sont obligés de faire des réquisitions judiciaires. Souvent, les passeurs, les têtes de réseau sont très, très loin. Là, en l'occurrence, on suppose qu'il est au Kurdistan irakien.
Ouais.
Donc, il faut des demandes de coopération judiciaire avec ces pays. C'est extrêmement compliqué. Et puis, les réseaux sociaux favorisent en fait quelque part l'anonymat des têtes de réseau.
Alors vous expliquez, c'est très bien expliqué et très bien mis en image, Donc le passeur va donc faire un bateau et ce bateau va lui rapporter, qu'il arrive, plus de 100 000 euros. C'est-à-dire chaque traversée rapporte à un passeur 100 000 euros, que vous arriviez ou pas arriviez. Enfin, il n'y a pas de service après-vente où vous le rappelez en disant j'ai coulé ou j'ai été ramené par la police française sur les côtes.
C'est un trafic extrêmement lucratif. L'OLTIM, qui est l'office en charge de la lutte contre le trafic des migrants, estime ce trafic à environ 150 millions d'euros.
En fait, 150 millions d'euros.
Si on fait le calcul, c'est-à-dire que si on prend en moyenne 50 migrants par bateau et qu'ils payent environ 2000 euros, on arrive très vite effectivement à des chiffres absolument faramineux.
Faramineux, 100 000 euros.
Quand ils sont ramenés, c'est ce qu'on voit à la fin de votre sujet, qu'est-ce qui se passe pour eux?
Mais souvent, ils retentent. C'est-à-dire qu'ils sont, sauvés. Ils sont sauvés. Et alors là, c'est la grande question. Est-ce qu'ils ont une ristourne parce qu'ils n'ont pas réussi à traverser la première fois? Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais j'imagine que oui, il faut repayer d'une certaine manière.
Mais on voit qu'il y a beaucoup d'interceptions aussi. Ça aussi, on le voit. C'est vraiment, la forme est assez extraordinaire, innovante. Vraiment innovante. Et ça passe, ça dure 14 minutes, 15 minutes. Et ça passe en un clic, j'ai envie de dire, parce qu'on vous suit dans cette enquête. Vous cliquez à chaque fois. On va pas, effectivement, on a raconté une grande partie du reportage.
Ça vous donne confiance dans le journalisme, en fait. Ouais. Parce que je trouve que c'est un vrai travail de journaliste. Et en fait, ça redonne aussi confiance sur qu'on peut innover en télé. J'ai appelé très vite Valérie en lui disant je trouve ça, mais on était d'accord, très innovateur, et c'est bien que Arte fasse ce genre d'enquête et ce genre de choses. On a été vraiment
avec l'agence Kappa, puisque vous êtes journaliste à l'agence Kappa qui produit ce reportage. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une fois par mois, c'est ça?
C'est une mensuelle, absolument. On est passé en mensuelle à partir du mois dernier.
Vous connaissez le prochain thème?
Je ne peux pas encore vous dévoiler le prochain thème.
Vous reviendrez en parler.
Absolument, avec plaisir.
Mais pour vous, c'est aussi une autre manière de travailler en tant que journaliste, non? Vous êtes devant votre écran.
Vous n'allez pas sur le terrain, en fait.
En fait, c'est une manière différente de raconter l'histoire. Mais c'est exactement la même manière de travailler. C'est la même manière de faire l'investigation traditionnelle. Entre guillemets, on vérifie nos sources, on appelle des experts, on appelle des associations, on fait des interviews. C'est exactement la même manière. C'est plutôt la manière de raconter qui va changer. C'est-à-dire qu'on va essayer d'embarquer le téléspectateur avec nous à travers les clics, les outils, en lui expliquant comment est-ce qu'on a essayé de vérifier l'information et comment on a abouti à tel et tel résultat de notre enquête. Toutes nos enquêtes sont disponibles sur le site d'Arte. Il y a l'enquête de mes collègues sur Instagram et les pétocriminels qui est sur Internet. Tout est sur YouTube et sur Arte.
Sur Arte.
.fr.
Il y a une grande enquête sur les pédocriminels et sur le trafic.
Justement, comment aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur ces réseaux qui sont aujourd'hui pratiquement impunis et qui permettent un nombre de trafics absolument incroyable.
Mais la régulation est difficile, la modération est difficile, ça va très vite. Là, on s'aperçoit que pour la question des passeurs, les passeurs sont extrêmement adaptables.
Bien sûr.
Ils s'adaptent très vite aux plateformes, ils comprennent très vite les règles et ils ont compris très vite que, par exemple, j'imagine que les modérateurs doivent taper des mots-clés en français ou en anglais. Donc là, typiquement, ils vont taper des mots en kurde, en pachto, dans les langues en fait de migration. Et donc, c'est plus difficile, j'imagine, pour des modérateurs qui ne parlent pas kurde, typiquement, de modérer ce genre de contenu.
Je ne sais pas si vous êtes posé la question, parce qu'à partir de 100 000 ou 200 000 abonnés, on est rémunéré par la plateforme. Donc, est-ce que grâce à leur poste, est-ce qu'ils touchent de l'argent de TikTok?
Alors, je ne pense pas, parce que sur les comptes que j'ai pu trouver et examiner, ils n'atteignaient pas ce genre d'audience.
D'accord.
Donc, pour l'instant, je ne pense pas.
Allez, c'est fini. C'est passionnant, vraiment. TikTok et le business des passeurs de migrants. C'est sur Arte, sur la plateforme d'Arte, également sur YouTube à partir de ce soir, c'est ça?
À partir de 18h sur YouTube.
Voilà, mais vraiment, regardez, parce que c'est extrêmement original, percutant, et bravo pour cette enquête, Manon Bachelot. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. On pourra parler. Il y a un auditeur qui posait la question sur le projet de loi, enfin la loi qui a été adoptée en Angleterre pour exfiltrer les migrants illégaux vers le Rwanda, ça va poser aussi un certain nombre de questions. À tout de suite.
Sud Radio Rodez.
104.4.
Sud Radio.
Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons.
tu reviens comme l'hiver, nous on te voudrait pépère au chaud dans ta maison.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque encore, allez.
Alors on va crier qu'on reste,
nous on reste jusqu'au dernier.
On va tout essayer, on reste,
nous on reste
jusqu'à la fin.
On passe à table, on accepte l'inacceptable, qu'un de nous peut manquer
de chaleur et d'amour, mais qui volera son secours dans la nuit de janvier.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque encore, allez. Alors on va crier qu'on reste,
nous on reste jusqu'au dernier.
On va tout essayer, on reste,
nous on reste
jusqu'à la fin.
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Frédéric Fougera, président de Tancan Paris, c'est une agence de communication. Vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama et vous êtes cofondateur également de l'agence Cogiteur.
Bonjour Valérie.
Anne Durez, bonjour, vous êtes présidente de l'association Femmes de Loi. Vous êtes avocate ou pas du tout ?
J'ai exercé comme avocate.
D'accord.
C'est mon métier, mais aujourd'hui je suis juriste et j'ai le plaisir de présider Femmes de Loi.
Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, journaliste, c'est notre correspondante à Toulouse. Bonjour Christine.
Bonjour Valérie.
Patrick
bonjour tout le monde.
Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Bonjour, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. On va revenir, on en a un petit peu parlé hier, la SNCF qui achète la paix sociale autour des contrôleurs aériens. Ça nous permet de parler des Jeux Olympiques. Hier, on l'a évoqué, on a eu un petit échange musclé avec Geneviève Götzinger sur les Jeux Olympiques et on va pouvoir continuer à évoquer ce que ça va nous coûter réellement en termes sociaux aussi. Mathilde Panot, convoquée pour apologie du terrorisme, et puis on l'évoquait, le Royaume-Uni qui veut expulser ses demandeurs d'asile au Rwanda. J'espère qu'on aura le temps de traiter tous ces sujets. Alors Anne, vous m'intriguez, je vois sur ma feuille coup de cœur pour Sharon Stone. Alors expliquez-nous pourquoi.
Alors, avec grand plaisir pour vous l'expliquer. J'ai visionné, il y a quelques jours, une vidéo publiée par Sharon Stone ou son entourage, mais peu importe. C'est une vidéo dans laquelle elle rappelle, alors actrice que tout le monde connaît, vous devez vous dire, oui, en effet, c'est intriguant, pourquoi avoir choisi cela ? Ce qu'explique Sharon Stone, c'est qu'elle a eu un AVC il y a une vingtaine d'années.
Absolument.
Et qu'à la suite de cela, elle... elle est devenue invisible pour Hollywood. Alors, bon, vous allez me dire, c'est la loi du genre à Hollywood. Mais, et elle explique comment elle a trouvé sa résilience. Et ce qui m'intéresse dans le propos très, très affirmé hein, qu'elle a exposé, c'est qu'au-delà du cas de Sharon Stone, il y a des tas de femmes qui n'ont pas sa notoriété, qui se lèvent tous les matins, bon, qui sont, un, sont invisibles, et deuxièmement, en particulier, lorsqu'elles traversent des accidents de la vie, que ce soit lié à la maladie, à un parcours professionnel qui peut être chaotique, à une prise d'âge, hein, parce que c'est aussi le cas d'un certain nombre de femmes, c'est la vie, eh bien, deviennent invisibles, voire sont mises à l'écart, voire sont déconsidérées. Et vous voyez, en citant cette vidéo qui peut comme ça prêter à sourire parce que c'est Sharon Stone...
Non, mais elle est très engagée du, sur le sujet.
Absolument. Et je voulais relier ce que j'ai remarqué à son propos, au sens, enfin à la genèse de mon engagement, parce que je trouve que porter la voix de celles et ceux, il y a aussi des hommes hein, qui sont mis à l'écart, mais porter la voix des personnes fragiles, ça me paraît être un combat de tous les jours.
Ben, c'est une très
vaste débat.
Oui, très bon coup de cœur. Et vous avez raison de parler de ces invisibles, de ces gens. On parle souvent ici des gens en situation de handicap aussi avec Frédéric. Et vous avez tout à fait raison de le citer. Patrick, c'est un coup de cœur, un coup de gueule?
Je suis dépité.
Ah, allez-y, dites-nous pourquoi.
Carlos Tavares. Ouais. PDG de Stellantis, un homme brillant, on en a besoin. J'aime les riches, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ouais. Sauf que sa rémunération a augmenté de 54% entre 2022 et 2023. Ouais. Pourquoi pas ? Sauf que, chers amis, vous payez comme moi des impôts, et pendant le quoi qu'il en coûte, si quand même ce qu'a fait de bien Emmanuel Macron, c'était de soutenir notre économie, nos entreprises, ça a coûté 240 milliards. Ça veut dire que, pas les salariés, pas les affidés de M. Tavares, mais les collaborateurs qui font aussi l'entreprise, ont été au chômage partiel. Et ce monsieur, là où je trouve que c'est assez indigne, c'est qu'il nous explique à nous, faites une loi en France et je respecterai la loi. Sauf qu'il est payé par un consortium hollandais. Donc si demain, chers amis, nous faisions une loi pour éviter quand même que ce soit avec des sommes astronomiques. Et je répète que j'aime les patrons, j'aime les riches. Mais je pense, Valérie, que là, avec tout ce qu'on a fait, avec 3 000 milliards de dettes, moi, j'aurais aimé que les très, très grands patrons, 0,01%, et je le dis à ma majorité, c'est pas augmenter les impôts, mais qui nous aident, madame, peut-être sur les violences aux femmes, qui nous aident sur la transition écologique, peut-être sur les 160 000 gamins qui sont victimes d'inceste par an. Et j'aurais aimé que ne ce soit pas un impôt, parce qu'en France, c'est comme ça. Quand vous faites une contribution, ça devient un impôt. Un cahier des charges précis sur 3 ans pour que tous ces gens qui sont vraiment... voilà, c'est 1 000 euros par jour, je veux dire. Il faut qu'on soit clair. Hein. Donc, qui gagne ou par heure, je ne sais plus d'ailleurs. Le chiffre est tellement astronomique. Qui nous accompagne? Et là, on a une espèce de communication. Comment je peux, moi, dans ma circonscription, dire à un petit retraité qui est ALD que je vais augmenter de 50 centimes sa boîte de médicaments, alors qu'à côté de ça, il y a une indécence telle. Donc voilà, c'est un coup de gueule et un coup de dépit. Est-ce que nous, les politiques, on peut encore influer sur l'économique à tel niveau?
Ouais. Une réaction...
Indécence, ouais. c'est le bon terme, mais on voit qu'il y a des patrons qui finalement aujourd'hui trouvent que certains salaires ne sont pas décents, même si c'est la loi qui les fixe et eux ont envie de les augmenter. Mais il y a d'autres patrons qui se comportent différemment. C'est une question humaine, mais pour aller expliquer ça dans votre circonscription, il n'y a pas d'autre moyen que de dire que ce n'est pas normal et qu'il faudrait changer
les
choses.
Vous voudriez qu'on encadre donc ces salaires?
Vous savez, Valérie, on parlera de la SNCF. En fait, on est dans un monde où chacun pour soi, sauf qui peut. Et j'en prends ma part, hein. Ça fait 3 mandats que je suis élu. J'ai l'impression, en fait, qu'on ne fait plus une nation. J'ai l'impression que, vous savez, c'est compartimenté. Chacun est là pour défendre uniquement son précaré. Et quand je parle de ses patrons, ben, je prends exemple Michelin, par contre. Ouais. Vous avez vu, le patron de Michelin, il a dit...
C'est à lui que je faisais référence.
J'ai besoin de collaborateurs. Enfin, quand même, vous savez, moi, je viens d'une génération où c'était avec le patron, c'était bâton. Ouais. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Notre jeune génération, je prends les médecins, quand un généraliste part à la retraite, il en faut 2,5 pour le remplacer. Depuis le Covid, la génération de mes enfants, c'est vie personnelle, familiale et professionnelle. Et quand je vois des patrons qui, en plus, nous disent « faites une loi sur laquelle il n'y aura aucune incidence », c'est plus que de l'indécence. Comment je fais, moi, pour expliquer aux 10 millions de Français qui ont moins de 1000 euros, il y en a qui ne se chauffent pas. Il y a des gens qui me disent, je ne peux pas. Je fais un repas des Restos du cœur. Et j'aimerais juste qu'il y ait cette prise de conscience. Encore une fois, Valérie, on a besoin de ces gens.
Et sur le foot, ça ne vous gêne pas?
Mais si, pareil. Mais à la limite, entendez le foot. Le foot, c'est vous et moi si on va au stade et qu'on paie le billet. Là, Carlos Tavares, ce que je peux y reprocher, c'est que pendant le Covid, nous avons payé avec nos impôts le chômage partiel. C'est ça qui me gêne.
C'est une réaction.
Après, ce que vous pointez du doigt de manière juste, c'est la question du partage de la valeur.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font des bénéfices. Moi, comme citoyenne, je m'en réjouis parce que ça rejaillit en cascade sur un certain nombre de partenaires sous-traitants, de collaborateurs, de leur famille. Mais la question du partage de la valeur, elle est absolument essentielle. Alors, faut-il légiférer pour qu'il y ait une multiplication plafonnée ou un multiplicateur plafonné entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas? Je ne sais pas, mais ça me paraît essentiel, la question du partage de la valeur. Alors, dans d'autres pays, on pourrait parler des États-Unis, ce pays où tout est permis, il n'y a pas de limite, les salaires frisent, non pas l'indécence, mais alors, les planètes qui nous sont éloignées. Il y a de plus en plus de milliardaires, notamment qui ont créé leurs entreprises, et qui disent, ma famille n'aura rien, ou quasiment rien.
Bien sûr,
mes enfants devront se débrouiller. Donc il y a vraiment des approches qui sont presque extrêmes, j'allais dire, mais en tout cas, le sujet du partage de la valeur, il se pose de manière légitime.
Alors, Christine, pour Stellantis, bénéfice en hausse de 11%, ils ont redistribué pour près de 2 milliards de primes mois de février à l'ensemble des salariés, donc il y a une redistribution quand même. Aux États-Unis, certes, les Bill Gates, etc., ont dit on ne donne pas leur fortune, mais les enfants sont déjà bien à l'abri, donc c'est aussi un message affiché. Après, c'est une volonté du patronat. Je vous rappelle Louis Gallois, quand il était patron d'Airbus, il avait dit, moi, mon salaire, il est plafonné à tant. Je ne veux pas gagner plus que le plus bas de mes salaires. C'est aussi de la responsabilité du grand patron. Est-ce que de moins payer ou qu'il soit moins payé par les actionnaires, un grand patron qui a quand même sauvé, il ne faut pas le rappeler, le groupe était quasiment au bord de la faillite quand il est arrivé aux manettes. Que de fait de moins le payer va faire qu'on va redistribuer? C'est la question du ruissellement. C'est ce message-là qui ne marche pas aujourd'hui, qui avait été lancé par Emmanuel Macron, mais ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut contingenter les salaires des grands patrons? C'est pas en deux minutes qu'on va régler le sujet, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais chez Stellantis, il y a eu de la redistribution, on peut pas dire le contraire.
Christine, en fait quand même, je veux bien, c'est pas que le patron qui a relancé l'entreprise, c'est les millions de collaborateurs, parce que je veux bien que ce soit un génie.
Mais ils ont reversé aux collaborateurs.
Milliards d'euros de primes.
C'est bientôt l'heure du journal. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Bergerac.
95.5.
Sud Radio.
Pourquoi ce soir on n'irait pas danser très tard, même si c'est pas ton genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Les années filent, le même refrain. Jamais le temps, le temps de rien. Dans l'océan, gardez le lien, Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains, les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours? Rien de plus beau si tout fout le
qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?